Alors, notre prochaine invitée, Madame Ève Coton, porte-parole de la Guignolée des médias. Madame Coton, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Très bien, et vous ?
Ça va, ça va. Écoutez, je vais vous poser la même question que j'ai posée tout à l'heure à M. Rivet. Et un Québécois sur trois a dû nourrir un proche depuis mars.
Oui.
Lui, il a trouvé deux aspects, un aspect négatif et positif. Et vous, comment vous percevez ça ?
Ben, c'est sûr que ça indique la précarité économique et la précarité alimentaire, parce que ce ne sont pas des proportions habituelles. Donc, ça montre qu'il y a plus de gens dans le besoin. En même temps, par contre, ça montre une certaine solidarité communautaire et familiale, parce qu'il y a des gens qui ont répondu aux besoins de leurs proches. Donc, ça, c'est certainement la partie positive qu'on peut y voir, c'est que les gens qui sont un peu moins serrés font des dons et sont disponibles pour les autres, mais c'est sûr que ça nous indique que les gens ont été significativement fragilisés par la pandémie et qu'actuellement, les gens en situation de précarité économique et en insuffisance alimentaire ont augmenté.
D'accord. Mais au fait, la raison pour laquelle je débute par cette question, c'est parce que, étant originaire d'Haïti, on a ce qu'on appelle le lacou, hein, la cour arrière où tout le monde se retrouve et partage tout. Et j'ai trouvé un peu étonnant, hein, et même après de longues années au Québec, que ça soit soulevé même comme point de départ. Donc,
oui.
C'est la situation qui est grave, finalement.
Oui, oui, parce que c'est quand même un changement des mœurs. Donc, vous avez raison, moi, je travaille au Nunavik avec les Inuits et le fait d'aider un proche en situation d'insécurité alimentaire, là-bas, c'est quelque chose qui est monnaie courante. Bon, d'une part, le niveau de pauvreté est plus élevé, les cas d'insécurité alimentaire sont plus fréquents, donc cette espèce de circulation entre les familles, les proches de nourriture est plus importante. Nous, ça semble être plus une mesure d'adaptation. Enfin, il y a certainement des gens ou des familles dans lesquelles ça arrive régulièrement, mais cette année, ça a augmenté, donc ça nous indique que le besoin a augmenté, donc il y a plus de gens là qui étaient dans ce besoin-là.
Et comment interprétez-vous le moral des gens pendant cette période de confinement, quant à que ce soit l'insécurité alimentaire et les problèmes de santé mentale et tout? Comment vous naviguez à travers tout ça et que vous comprenez tout ça?
Ben, c'est sûr que c'est une période d'adversité. Au niveau de la santé mentale, il y a deux facteurs actuellement qui sont des facteurs d'adversité importants au niveau de la santé psychologique des gens. C'est l'isolement relatif qu'implique les mesures sanitaires. Donc, ça isole davantage les gens. On sait que le support social, les contacts interpersonnels, c'est quelque chose qui... c'est des choses qui sont favorables à la santé mentale. Donc, c'est sûr que ça, ces facteurs de protection-là sont en partie perdus avec les mesures sanitaires. Et aussi, l'insécurité économique et l'insécurité alimentaire, ça aussi, ça a des répercussions psychologiques importantes en termes d'anxiété, en termes de dépression, en termes de... Je ne sais pas si c'est vécu ailleurs dans des cultures où la richesse est moins valorisée sur le plan culturel, mais ici, les gens vont décrire les gens en situation de grande pauvreté, par exemple les gens qui doivent avoir recours à des comptoirs alimentaires, qui vivent une situation de honte et d'humiliation par rapport à ça, que c'est quelque chose dont ils sont pas fiers, ils ont peur d'être stigmatisés, même d'être exclus socialement à cause de ça. Donc, c'est peut-être encore plus lourd à porter dans une culture où la réussite matérielle, c'est tellement valorisé au niveau de la culture, mais en tout cas, les répercussions psychologiques de l'insécurité alimentaire sont très bien documentées, donc anxiété, dépression, irritabilité qui peut amener des conflits, évidemment, à l'intérieur des familles. Quand tout le monde a moins de patience, ça a des conséquences. Pour les jeunes, pour les enfants, les conséquences sont aussi très importantes parce que des jeunes qui vivent de l'insécurité alimentaire, c'est des jeunes qui vont avoir plus de troubles d'apprentissage, plus de troubles de comportement, plus de troubles émotionnels. Donc, ça peut compromettre, si vous voulez, leur développement comportemental également. Donc, c'est des facteurs d'adversité actuellement là, qui minent le moral de la population. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être solidaire le plus possible des personnes qui sont le plus en besoin économique et alimentaire actuellement.
On fait ressortir deux termes en particulier et on parle de lassitude et inquiétude. Et lassitude, dans quel sens?
L'attitude, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens. Le sondage qui a été fait qui a été commandé par l'équipe de la Guignolée et qui a été fait, dont on a eu les résultats ce matin, mm-hmm. c'est qu'il y a plus de gens qui vont se dire épuisés et fatigués qu'en mai dernier, où la première partie du sondage avait été faite. Donc, c'est sûr qu'en mai dernier, on était dans une situation de stress aigu. La pandémie, c'était tout nouveau. On était un peu sous le choc. On était mm-hmm. tous en train de s'adapter, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Maintenant, on en est plus rendu après plusieurs mois à ce régime-là, si vous voulez. On est plus dans des dimensions de stress chronique où là, ben, les gens déploient des mécanismes d'adaptation à tout ça, mais il y a une espèce de lassitude parce que c'est pas comme une épreuve aiguë qui est très difficile, mais qu'on traverse rapidement. C'est une épreuve qui s'étire dans le temps. Mm-hmm. Et donc, les pandémies, c'est des guerres d'usure, si vous voulez, parce que ce qu'il faut faire, comment il faut s'adapter, l'adversité que ça entraîne, ben ça s'étire sur plusieurs mois. Donc, c'est là où on en est. Les gens vont rapporter que ça fait plusieurs mois maintenant qu'ils sont inquiets, et pour leur situation économique, et pour leur santé, et pour les risques de contagion, et pour le fait de s'ennuyer, de pouvoir être proche des gens de leur famille ou de leurs amis. Donc, il y a une lassitude qui s'installe parce qu'on s'adapte maintenant depuis plusieurs mois. On fait des efforts dans ce sens-là et malheureusement, la situation a s'étire, donc on doit continuer à le faire.
OK. Et quelle serait, pas la solution, parce que la solution n'existe pas nécessairement, mais quelles seront les pistes pour mieux affronter tout ça?
Pour affronter la pandémie, c'est sûr qu'il faut se rappeler que ça demeure une situation transitoire, même si elle est longue. Mm-hmm. Il faut, quand on fait des sacrifices, par exemple, il y a deux choses. Savoir que c'est des sacrifices quand même qui sont temporaires. Là, je sais que pour Noël, tout ça, il y a beaucoup de gens qui sont peinés de ne pas avoir la liberté qu'ils auraient voulu, etc. Ça demeure des sacrifices temporaires, même s'ils sont longs dans le temps. C'est pas quelque chose qui va durer une décennie. D'autre part, il faut se rappeler le sens de tout ça parce que faire des sacrifices. Vous savez, une des difficultés, c'est que tous les sacrifices qu'on fait actuellement, on voit pas directement l'impact après. Hein, quand on suit les mesures sanitaires, on voit pas les vies qu'on sauve ou les gens qu'on empêche de tomber malades, mais il faut quand même se le rappeler. C'est que c'est le sens de tout ça, que tout ce qu'on fait, c'est pour aider les gens les plus vulnérables au niveau de la santé. Et il faut, si on le peut, être solidaire aussi économiquement des gens les plus durement touchés, à la fois parce que bon, ils sont plus importants cette année. On sait que les demandes, par exemple, dans les comptoirs alimentaires ont augmenté, que les gens sont plus précarisés là, au niveau économique. Mm-hmm. Et d'être généreux, de donner, c'est quelque chose qui est bon pour la santé mentale, parce que les gens qui sont généreux dans la vie sont aussi plus heureux, vivent plus vieux. Donc, la générosité, c'est pas juste quelque chose qu'on fait pour les autres. Ça aide, bien sûr, les gens quand on est en mesure de donner et qu'on le fait, mais ça nous apporte aussi quelque chose à nous. Donc, les gens, les porte-parole de la Guignolée, comme moi, on est conscients qu'actuellement, la situation économique est difficile. Il y a des gens qui ne peuvent pas donner. On est tout à fait conscients, mais on encourage fortement ceux qui le peuvent à être particulièrement généreux cette année pour qu'on ait comme ça un mouvement de solidarité sociétale qui va faire du bien à tout le monde, ceux qui vont recevoir et ceux qui vont donner.
Et dites-moi, dans un contexte où il faut développer ce sentiment de fraternité, et comment estimez-vous l'apport de votre engagement à vous dans tout ça?
Ben moi, ça me faisait plaisir d'être porte-parole là-dedans parce que vous savez, comme médecin psychiatre, on est très près de la pauvreté. Par exemple, moi, pendant 10 ans, mon travail à Montréal, ça consistait à soigner des gens qui souffraient de schizophrénie sévère. Mm-hmm. Et c'est une maladie qui empêche souvent les gens de travailler. Donc, même si la schizophrénie, ça atteint des gens qui font partie de toutes les classes socio-économiques, les gens subissent souvent une dégringolade économique parce qu'ils sont pas souvent en mesure de travailler à cause de leur maladie. Donc, ils sont surreprésentés dans les couches économiques très pauvres. Mm-hmm. Et mon travail, ça consistait à aller les soigner à domicile. Donc, j'ai vu les domiciles de gens qui sont dans les plus pauvres de la société. Donc, j'ai vu des domiciles qui étaient des pièces grandes comme un garde-robe walk-in, où il n'y avait pas de fenêtre, où il n'y avait qu'un seul matelas comme, où il y avait de la vermine. Donc, j'ai vu des gens vivre dans ces conditions-là. C'est extrêmement bouleversant de voir comment les inégalités sociales sont encore plus grandes que ce qu'on pouvait s'imaginer. J'ai aussi beaucoup côtoyé, ça fait 21 ans cette année que je travaille dans le Grand Nord du Québec, tant avec la population inuite, qui vit aussi dans des conditions de pauvreté plus importantes que la population générale, où il y a des problèmes de logement importants, où les gens sont entassés dans des logements. C'est un luxe d'avoir une chambre à coucher à soi là-bas. Donc, mon travail m'a amené à côtoyer de la grande pauvreté et de l'insécurité alimentaire aussi. Moi, ça m'est arrivé avec des patients de devoir insister pour qu'ils aient cherché des paniers et de la nourriture dans des ressources alimentaires parce qu'ils avaient trop honte d'y aller, mais parce que là, à un moment donné, leur santé en dépend. Donc, à côtoyer comme ça les gens, dans une certaine intimité, parce qu'on est quand même dans le contact intime avec nos patients, mm-hmm. et d'être témoin de ça, c'est impossible après d'être, dans le déni de cette triste réalité de notre société. Donc, pour moi, c'est très important de donner une voix à ce problème-là et de ça me fait plaisir d'encourager la générosité des gens. Je vais être moi-même, évidemment. Je vais aussi donner à la Guignolée et en argent et en denrées alimentaires. Mais ça me fait plaisir d'être une porte-parole parce que c'est une cause dont j'ai été témoin abondamment dans mon travail et une cause qui me tient à cœur également.
Finalement, je pourrais dire que s'il y a un mérite, et je le dis avec énormément de gêne, l'emploi de ce terme, c'est que la pandémie a permis de faire ressortir l'humanisme chez les gens.
Ben, ça, vous savez, il y a quand même des bons côtés à la pandémie. Il n'y en a pas beaucoup, mais il faut les voir. Effectivement, moi, je pense que ça peut... Il y a déjà des gens qui viennent en aide à leurs proches. Donc, il y a déjà une notion de partage et de solidarité communautaire qui est présente, que les gens ont déjà déployé. Je pense que les gens vont être sensibles aussi au fait que cette année, les demandes dans les banques alimentaires sont plus importantes. Donc, tout à fait, il y a quelque chose de l'ordre d'une solidarité. Et cette espèce de pause qu'on a par rapport à nos modes de vie effrénés que la pandémie exige, je trouve un des côtés positifs de ça, c'est plus de temps de réflexion, peut-être moins de temps à consommer compulsivement du divertissement et plus de réflexion sur qu'est-ce qui actuellement sont les besoins les plus urgents dans notre société. Et la faim, c'en est certainement un. Alors, je pense que ça peut peut-être amener des prises de conscience et, oui, amener un mouvement de solidarité humaine plus important. Enfin, c'est ce que j'espère.
Et tout à fait. Et je partage cet avis. Et pour terminer, quelles sont les façons de donner?
Oui, tout à fait. Alors, il y en a plusieurs façons de donner. On peut aller sur le site de laguignolée.ca ou la Guignolée des médias, où on peut faire des dons en ligne. On peut aller porter des denrées alimentaires non périssables et des articles d'hygiène, soit dans les Jean Coutu, soit dans les Maxi, et soit dans les Via Capital, donc les courtiers immobiliers. Mm-hmm. On peut aussi utiliser le site de la plateforme de Desjardins, et à ce moment-là, Desjardins va doubler les dons, va mettre l'équivalent de du montant eux-mêmes, là, donc ça va bonifier l'aide alimentaire à la Guignolée.
Sur ce, Madame Ève Coton, un grand merci. Et un grand merci d'avoir partagé avec nous ce sentiment de partage, ce sentiment de don, de contribution. Et un grand merci.
Ça m'a fait plaisir. Merci à vous.
Merci.